RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Avec le tour de la table aujourd'hui sur RMC, RMC Story, l'entrepreneur, le chef d'entreprise Emmanuel Devigny, l'éducateur Abel Boyi et la prof d'histoire géo Barbara Lefebvre. On n'oublie pas de jouer parce que cette semaine, on a un très beau cadeau à vous offrir. C'est un séjour de 2 jours avec nuit d'hôtel pour 4 personnes au parc Astérix. Vous y allez en famille, 2 adultes et 2 enfants ont l'occasion de profiter des 50 attractions et spectacles pour toute la famille pendant l'été gaulois. Pour remporter votre séjour au parc Astérix, c'est très simple, vous envoyez le mot parc au 732-16, parc au 732-16. Allez, jouez, gagnez, et on se retrouve tout à l'heure en direct avec la gagnante ou le gagnant vers 11h20. Mes chères grandes gueules, dans l'actualité, il y a le Rassemblement National qui précise, s'il arrive au pouvoir, qu'il organisera un référendum sur le port du voile, symbole, selon le député Sébastien Chenu, de l'islamisme dans notre pays. Interdiction dans l'ensemble des bâtiments publics.
Il ne s'agit pas de l'interdiction du port du voile qui est soumise à référendum, c'est l'interdiction de l'islamisme. Et dans l'islamisme, son financement, ses financements, ses expressions, le voile en est et l'une de ses expressions sera soumis effectivement à un référendum des Français. Une femme qui, en 2026, choisit de porter le voile dans notre République, elle envoie un message de sécession avec la République.
Alors, notez que le RN voulait auparavant l'interdiction dans la rue, dans l'ensemble de l'espace public. Donc, il y a une petite reculade. Pourquoi ? Parce que, si l'on en croit notamment mes confrères du Monde, il y a eu discussion en interne entre Jordan Bardella et Marine Le Pen. Le président du RN, présenté comme le futur Premier ministre en cas de victoire à la présidentielle, aurait proposé carrément la suppression de cette mesure du projet présidentiel parce qu'il pense que ce n'est pas faisable, que les juristes, de toute manière, seront contre cette mesure et qui n'est pas sûr des bénéfices politiques d'une telle interdiction. Et finalement, Marine Le Pen n'a pas vraiment voulu trancher et donc elle a décidé de s'en remettre aux Français par référendum. C'est eux qui décideront si oui ou non il faut interdire le voile dans les bâtiments publics. Est-ce que on en a besoin? Est-ce que vous pensez que ça passera? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça va pas fracturer la société? Le 32-16 pour intervenir. Emmanuel Devilliers.
Oui. Alors, tu citais, Olivier, les juristes, mais le problème, de toute façon, c'est pas les juristes. Les juristes sont là au nom de l'opinion française. Donc, il faut écarter cet argument purement de forme. Alors, de fait, le port du voile n'est pas une tradition ancrée dans l'histoire de France et dans les usages communs. Moi, j'ai été élevé dans un village en Vendée, par exemple. Mais même si j'avais été élevé à La Roche-sur-Yon, le chef-lieu de ce département, il n'était pas commun jusqu'à présent d'avoir couramment dans la rue ou dans tout autre endroit. Des femmes, quel que soit leur âge, avec un voile,
la population a changé.
Donc, ça n'est pas dans les traditions françaises. C'est pour ça que le RN s'élève contre ce qu'il considère comme une dérive. Maintenant, pour être nuancé, car c'est un sujet délicat, et il y a port du voile et port du voile, assimiler, réduire le port du voile à une démarche islamiste, c'est sans doute exagéré. Voire partisan. Donc moi je pense qu'il faut raison garder et revenir à une limitation du voile dans l'interdiction telle qu'elle est pratiquée, je parle sous ton contrôle Olivier, actuellement dans les administrations, oui. et les lieux de représentation publique de l'État et collectivités, et peut-être y ajouter aussi dans cette volonté quand même de régulation nuancée une interdiction pour toutes les personnes mineures, parce que l'argument aussi du RN est de dire que c'est quelque chose qui est réalisé sous une pression sociale et qu'il n'est pas normal que sans un avis personnel et libre, quelqu'un soit amené à porter le voile, qui plus est, dans la vie publique française.
Abel Boyi.
Tu sais, il y avait un sketch dans les guignols de l'info où on sortait un iPhone et dessus, il y avait l'application Islam. Avec le slogan « Il y a toujours un arabe pour justifier vos conneries ». J'invite le Rassemblement National à désinstaller cette application de leur téléphone. Outre le fait qu'on soit pour ou contre, c'est pas ça le sujet. Je pense pas qu'un Français qui est dans le rouge aujourd'hui et qui regarde son compte bancaire qui a moins 500 euros, il se dit « Oh là là, purée, mon problème c'est le voile ». Oui, 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 je commence. Et deuxièmement, c'est un débat, soit tu l'assumes, et tu le mets dans ton programme présidentiel, mais tu ne passes pas par un référendum. Ça veut dire que tu es lâche sur la question, que tu vas laisser les Français se déchirer entre eux, et ça va avoir des effets très néfastes. Et la dernière chose, il faut réfléchir aussi avec les personnes concernées, parce qu'elles sont toujours mises de côté. Quand Monsieur Chenu dit qu'en gros, une femme voilée est une islamiste en puissance, évidemment, je le redis avec mes mots, il n'a pas dit dans ses mots, ben, c'est extrêmement dangereux. Parce qu'il y a multiplicité de raisons, multiplicité de cas. Et même au sein des Français musulmans, il y en a qui sont pro-voile, il y en a qui sont anti-voile. Donc il faut discuter avec les personnes concernées et ne pas toujours brandir le sujet de l'islam comme jeter de l'huile sur le feu pour donner une sorte de peps à sa campagne, parce que c'est un sujet qui est inflammable et bankable à chaque fois.
Après, il y a quand même beaucoup de questions qui restent assez floues. Quel type de voile ? Qu'est-ce qui sera vraiment interdit? Comment effectivement imposer cette mesure? Parce que quand on a interdit le voile à l'école, c'était pour des raisons de sécurité, de trouble à l'ordre public. Il faut un motif. Bon, est-ce que le fait d'interdire le voile partout, est-ce que c'est un motif de trouble à l'ordre public, de danger?
Il va falloir
quand même
mais
définir
surtout,
un motif.
Mais surtout, il faut qu'ils assument.
Désolée,
non, mais le Rassemblement National, après je finis. Eux, ils ont une position claire dessus, d'accord ou pas?
Ils disent que le voile, c'est des islamistes.
Le problème, c'est pas ça, qu'ils assument de le mettre dans leur programme. Le fait de le mettre en référendum, c'est un signe de lâcheté, oui. Bah, et qui démontre justement les tensions et les dissensions à l'intérieur du parti.
Excusez-moi, la loi de 2004, ce n'est absolument pas pour des questions de sécurité ou même de troubles à l'ordre public, c'est sur la question de la neutralité politique et religieuse qui est due dans le cadre scolaire. Donc c'est pour des questions liées à la neutralité qui est spécifiquement clairement indiquée comme politique et religieuse. Le voile, le hijab, n'est pas un signe purement religieux, c'est un signe politico-religieux. Preuve en est, je vais vous donner un autre exemple. Je me suis rendue plusieurs fois au Mali en 1995, dans le cadre de mes études, etc. Au Mali, Bamako, Ségou, Mopti, etc. Jamais vu de femme voilée à la saoudienne,
c'était
en hijab, 95.
Ça a beaucoup changé, le Mali.
Voilà. Eh ben alors, le Mali en 2025, 30 ans plus tard, oui. Tu y vas, même pas l'Arabie Saoudite, c'est des femmes contraintes, en plus dans les régions du Nord, autour de Mopti, etc., qui sont carrément sous le joug des pires islamistes qui existent. Donc, excusez-moi, maintenant je regarde, je vais partir du Mali, donc le Mali, pays qui est devenu en Afrique.
On
n'est pas le Mali, mais quand un pays dans lequel l'islam qui était pratiqué était un islam spécifique au Mali, matinée des traditions animistes précoloniales et où cet islam s'était adapté aussi à la culture malienne précoloniale et pré-islamique. Maintenant, c'est devenu un pays complètement islamique, tenu par des djihadistes.
Non, mais on s'en fout du Mali, tu prends.
Non, non. Alors, je vais te
c'est
dire
vrai,
déjà.
C'est un peu long sur le Mali.
Non, parce que ce que je vous explique, c'est.
On va devenir le Mali, quoi, en fait.
Non, ce que je vous explique, c'est.
Il va y avoir un minaret sur la tour Eiffel, c'est ça?
Ce que j'essaie de vous dire, c'est que le voile, la conquête du corps des femmes, l'invisibilisation du corps des femmes, c'est une conquête politique. C'est le djihad qui a cet objectif, qui est rendre visible dans l'espace social la conquête d'un certain islam qui n'est pas l'islam pacifique, qui permet de vivre tous ensemble. Et cette réalité-là, si tu la regardes à travers des études longitudinales comme celle que fait l'IFOP, tu te rends compte qu'au cours des 20 dernières années, tu as en effet un durcissement de la pratique religieuse. Et maintenant, je vais vous donner 2-3 chiffres. En 2003, 16% des femmes musulmanes françaises portaient le voile. En 2025, c'est 31%. Avec une accélération chez les jeunes. Les 18-24 ans, en 2003, c'est-à-dire au moment de la loi sur le voile à l'école, c'était 16%. Vous savez combien c'est aujourd'hui en 2025 qui déclare les 18-24 ans? C'est 45%.
Bah, c'est peut-être pour ça,
multiplié par 3. Et dans le même temps.
C'est peut-être ça qu'il faudrait travailler. C'est
et dans le même temps,
plus de jeunes se voient,
vous avez 44% des musulmans qui vivent en France qui disent que la loi religieuse est prévaut sur la loi de la République. Donc il y a une offensive de l'islam politique, que je distingue de l'islam familial, culturel, etc. Et cet islam politique, il fait d'abord du mal aux musulmans et il fait beaucoup de mal aux femmes musulmanes qu'on veut ainsi invisibiliser. Alors, et c'est la création d'un apartheid sexuel dans un espace. Comme l'a dit.
L'alerte tunnel, s'il vous plaît.
Est-ce qu'on fait le référendum?
Mais bien sûr, vox populi, vox dei. Oui,
mais le problème du référendum, de manière très dépassionnée et très posée et concrète, c'est que le référendum quand même va créer un climat délétère.
Mais parce qu'il n'est pas délétère.
Et d'autre part, si le référendum, par hypothèse d'école, est contre le port du voile, l'application sera compliquée.
Mais il est contre. Mais non, vox populi, vox dei. Oui, si les Français disent le voile islamique n'est pas un signe politique, ce n'est pas l'expression d'une forme de conquête politique d'un islam politique, pas de problème, vox populi, vox dei. Au contraire, je suis pour le référendum.
Avant d'écouter Frédéric Abel,
Barbara. Ce que tu dis, effectivement, il y a des gens qui sont comme ça et cette réalité, elle existe. La personne qui dit que cette réalité n'existe pas ment. La problématique, c'est la manière dont le sujet est posé. Ça laisse entendre que tous les musulmans potentiellement seraient dans un plan. D'ailleurs, c'est ce que dit souvent Éric Zemmour. J'ai pas dit que c'est toi qui l'as dit. La manière dont il est posé, ça laisse entendre que tous les musulmans veulent conquérir la France, veulent soumettre les femmes. Et il y a un autre mensonge aussi. Qu'on soit pour ou contre, moi je veux même pas débattre dessus, on connaît nos positions à chacune. Il est faux de dire qu'une femme qui porte le voile en France ne défend pas une femme qui se bat pour l'enlever en Iran, par exemple. Mmh. Je connais des femmes voilées qui se battent et qui militent pour que d'autres puissent avoir la liberté.
La question donc voilà. De crayon,
non, mais faut parler avec nuance et de tous les cas.
Alors,
oui, les tarés, ils existent.
Frédéric.
Oui, les islamistes, ils existent, mais la majorité sont des musulmans et des musulmans.
Alors, c'est très bien, stop, s'il te plaît, bien le rôle des minorités tyranniques Frédéric, sur les majorités silencieuses.
Stop. Frédéric est avec nous au 32-16. Bonjour Frédéric.
Bonjour les GG.
Vous vous appelez Danières-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine. Vous êtes traiteur. Est-ce qu'il faut ce référendum?
Alors, moi je ne vais pas faire de politique, je vais donner un exemple concret de mon expérience personnelle. J'ai travaillé à Alger en 2015 pour la formation de tout un nouvel hôtel qui réouvrait sur les Sud d'Alger. Donc là, on va pas refaire le truc, hein. Algérie, quand même bien musulman, on y est bien là. Aucune femme voilée dans l'hôtel. Ah, ça laisse un silence. Hein. Aucune femme voilée dans l'hôtel.
Mais parce
l'hôtel.
Que c'est interdit ou...
Oui, parce
non. Hôtel géré par l'État, c'est un hôtel étatique. Ouais. Le règlement intérieur, c'était aucune femme voilée, parce qu'on veut se mettre à la mode de l'Occident. On veut attirer des touristes de l'Occident, et donc il n'y a pas de raison de mettre le voile. J'ai été choqué. Je peux vous dire aujourd'hui, ma meilleure expérience humaine en termes de formation, c'était en Algérie. Personne ne voulait y aller. Tout le monde des a priori. On est très loin de l'islamisme qu'on voit en France, qui effectivement se radicalise de plus en plus.
Donc vous voulez un référendum, Frédéric, si je comprends bien?
Ah bah moi, bien sûr, moi, je suis pour le référendum. Hein. Parce que moi, j'ai discuté avec des femmes là-bas. Il y a une dame, d'ailleurs, dans mes premiers jours, qui m'arrête dans la rue, qui me dit bonjour. Je ne la reconnaissais pas. Bah forcément, je la vois tout le temps sans voile. D'un coup, je la vois avec le voile, je ne la reconnaissais pas. Et j'ai discuté énormément avec eux. Et eux, ils m'ont dit, mais ça, c'est un choix personnel. Il n'y a pas de, il n'y a personne qui oblige à porter le voile.
Ah bah, si c'est un choix personnel, donc, pourquoi obliger cette personne à ne pas porter son voile?
Mais le problème, c'est qu'ici, qui fait monter le port du voile?
Voilà.
C'est là où il faut se poser les bonnes questions.
Frédéric, je suis d'accord avec vous.
Vous pensez à qui?
Et dans quel objectif?
Si une adulte décide elle-même de porter le voile, ça va être compliqué de lui interdire de le faire dans un état de liberté.
Oui, mais c'est
la liberté qui prime.
Alors moi,
il y a un moment, excusez-moi, il faut mettre les pieds dans le plat. Parce que moi, je passe à côté d'une mosquée régulièrement qui se trouve à côté à Gennevilliers. Pour le coup, pour avoir travaillé avec des musulmans pratiquants, j'ai pu discuter de leur coutumes et ainsi de suite. Une petite fille de 4 ans.
Ah, mais c'est différent.
N'a pas à porter le voile.
Oui, mais vous voyez, Frédéric.
Vous voyez?
Et moi, je parlais d'adultes.
Et pourtant, on les oblige.
Attendez.
Il faut interdire pour les mineurs.
Là, il fait une proposition, Emmanuel. Il dit, il faut interdire pour les mineurs. Mais personne adulte est libre de choisir.
La personne adulte. Moi, je vais faire comme tout le monde maintenant. C'est la nouvelle truc. Pour pas répondre, on parle d'autre chose. au baccalauréat de français, au baccalauréat, au baccalauréat de français, au bac, non mais de toute façon vous pouvez toujours parler sur moi, je vais continuer à parler, au baccalauréat de français, les élèves étudient discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. J'invite tous les gens qui parlent de, on peut pas, un adulte, il est forcément libre de décider. On va vous expliquer ce que c'est le conditionnement au consentement de lois liberticides qui vont justement, dès votre plus jeune âge, vous expliquer pourquoi vous devez refuser d'exercer votre liberté de penser, votre liberté individuelle. Vivre en France, c'est justement vivre dans la...
Vivre
en France, c'est précisément vivre dans un pays, le pays des Lumières, qui a pour objectif d'émanciper l'individu, de faire en sorte que l'individu exerce son libre arbitre et puisse sortir des conditionnements dans lesquels sa culture d'origine le met. Il ne veut pas en sortir, pas de problème.
Tu vas sonder toutes les femmes musulmanes pour leur demander si elles sont victimes de cette pression ou si elles ont décidé vraiment...
La femme musulmane, comme tu dis, qui vraiment est très attaché à son voile, pour qui c'est un signe religieux fondamental. Si demain le peuple français dit pas de voile islamique, je crois qu'il existe 57 pays dans le monde qui sont des pays musulmans où elle pourra porter son voile et respecter les règles de la charia.
À partir.
Donc si demain je vis dans un pays qui m'empêche de vivre, je change de pays.
Le problème, si elle est française, tu vas dire une française.
En France, les mœurs. Je crois même que c'était Monsieur Macron.
Il faut le faire pour toutes les religions dans ce cas.
Dans son hypocrisie habituelle, avait dit à un moment donné que le voile ne correspondait pas aux mœurs françaises.
Mais Macron, il a dit tout et son
contraire. Le
mot de la fin, Noël. Merci Frédéric d'avoir été avec nous. Noël qui nous appelle de Charente. Bonjour Noël.
Oui, bonjour. Salut les GG. Salut tout le monde. Salut la France. Vous m'entendez là ?
Oui, difficilement.
Pour moi c'est clair, net et précis. L'idée de référendum, je me dis ouais, pourquoi pas. Mais faut quand même pas. Pourquoi à chaque fois c'est tout le temps sur le voile ? Pourquoi ils ne veulent pas faire de référendum sur les autres signes religieux ostentatoires ?
Lesquels ?
Lequel
signe religieux ostentatoire?
Il faut interdire la kippa
qui invisibilise le corps. Non mais attendez, le voile islamique, c'est parce que il faut que la femme soit pudique, qu'elle montre dans l'espace social qu'elle appartient à la culture musulmane et que son corps peut ainsi empêcher.
Noël est à peine parlé que moi
s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Parce que bon, vous prétendez connaître l'islam. Moi, j'ai baigné dans une culture musulmane. Je sais de quoi je parle. Je maîtrise parfaitement le sujet, beaucoup mieux que vous.
Mais ça, vous en savez rien, monsieur.
Tais-toi, Barbara. Laisse Noël terminer.
Il n'en sait rien de ce qu'il en sait de ma vie.
Oui, mais parce que tu ne le laisses pas parler.
Bah oui, c'est vrai que moi, je peux vous dire à titre personnel que je suis que mon grand-père était recteur de la mosquée d'Angoulême pendant de nombreuses années. Que sa femme ne portait pas le voile. Il ne lui a jamais imposé, déjà. Mais moi, ce que je veux dire par là, je regarde cette idée de référendum, elle est complètement ridicule. Soit on fait un référendum
sur tous les signes religieux, je suis d'accord,
sans distinction, ou soit pas de référendum.
Ce qu'on a fait, c'est qu'on a interdit à l'école tous les signes religieux,
Moi, je suis pas, moi, à titre personnel, je ne suis pas pro-voile. Attention, je ne suis pas pro-voile. Ceux qui me connaissent le savent. Ceux qui me connaissent savent que je suis donc... Je suis binational, je suis français et algérien et je milite au Rassemblement pour la culture et la démocratie qui est un parti profondément laïque. Et d'ailleurs, même au sein de ce parti, en Algérie, il y a des femmes qui portent le voile sans que ça ne pose problème du tout.
Mais vous dites que ce référendum, vous sentez que c'est surtout une attaque contre
l'islam. Les hommes porteront le voile, l'islam. On verra. Pour l'instant, ils portent pas le voile.
Merci Noël,
ils ont pas
merci
besoin
d'avoir
de cacher
été avec
leur
nous. C'est terminé.
C'est ça les religions, patriarcales.
Barbara, merci. On a proposé une question sur le compte X des Grandes Gueules sur ce sujet ô combien inflammable. Pour ou contre le référendum sur le port du voile ? Vous dites contre à 18,3%. Vous dites pour à 81,7%. Donc, il y a une demande de référendum de la part de ceux qui nous écoutent.
Bankable.
Dans un instant, vous avez vu que c'est reparti à la hausse, à la pompe. Je ne sais pas si vous avez fait le plein récemment. Malheureusement, la guerre au Moyen-Orient qui a recommencé, tout de suite des conséquences pour les automobilistes. Mais pour l'instant, le gouvernement ne veut rien changer à son dispositif. Est-ce qu'il a raison ou pas ?
Il y avait un dispositif ?
Oui, je vais vous le rappeler. Mais ça ne concerne pas tout le monde et d'ailleurs pas grand monde. À tout de suite sur RMC.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Il Il est 10h25, vous écoutez RMC ou vous regardez RMC Story, vous avez bien raison. D'autant plus que vous le savez, on vous fait gagner des séjours au Parc Astérix cette semaine. Un séjour de 2 jours avec nuit d'hôtel pour 4 personnes, 2 adultes et 2 enfants. Un séjour familial pour profiter des 50 attractions et spectacles pour toute la famille que vous propose le parc. Un été gaulois. Pour emporter ce séjour au Parc Astérix, vous envoyez le mot parc au 732-16. Parc au 732-16. À vous de jouer, à vous de gagner. La gagnante ou le gagnant en direct dans les grandes gueules dans environ un peu moins d'une heure, vers 11h20. Pour l'heure, on va s'intéresser malheureusement à ce qui fait le quotidien de millions d'automobilistes français. C'est de constater qu'à la pompe, c'est reparti à la hausse. Bah, cherchez pas, hein, ça y est, les 2 euros de nouveau atteint la pompe, aussi bien pour le diesel que pour le sans-plomb, parce que bah, malheureusement, il y a eu la reprise de la guerre au Moyen-Orient, et tout de suite, les conséquences se font sentir lorsqu'on va faire son plein. Le répit aura été de courte durée pour nous automobilistes. Une mauvaise nouvelle pour les vacances estivales. Alors, j'écoutais ce que disaient les représentants du gouvernement, bah, on ne change rien. Bah, là, on ne va pas mettre de nouvelles mesures d'aide. On est toujours sur l'aide pour les travailleurs grands rouleurs, qui avait été, souvenez-vous, décidé par le gouvernement au mois de mai. Ça concernerait 3 millions de Français, mais jusqu'à présent, il y a seulement 40% des gens concernés qui ont sollicité cette aide, qui consiste à une indemnisation de 100 euros. Donc, ça te fait deux pleins ou un plein et demi. Bon, est-ce qu'il faudrait baisser les taxes, comme le proposent certains, ou est-ce qu'il faut attendre que ça se passe? Je rappelle que Total aussi plafonne toujours, mais un peu moins. Ça ne concerne plus que 1200 stations-service. Alors, est-ce que, bah, tant pis. Et je voudrais surtout savoir comment vous allez faire pour payer ce carburant toujours plus cher. Est-ce que vous avez renoncé à une partie de vos vacances? Est-ce que vous allez partir en vacances, mais vous allez renoncer peut-être à des restaurants, des attractions, etc.? Le 32-16 pour intervenir à Belbouille.
Cher Olivier, quand tu parles de répit, est-ce qu'une baisse à 1,98€ ou 95€, c'est un répit? Oui, moi, je suis à côté de chez moi, ça a baissé à 2,003€. Ah ouais, bravo le répit, quoi. Moi, on avait dit de toute façon que ça baisserait pas. Et même quand tu vas dans les stations Total ou autres, tu discutes avec les vendeurs. Ils savent que ça va monter. Tout le monde sait qu'on va vers des prix de l'essence. D'ici 5 ans, on sera sur du 2,50€. Faut se rappeler que la crise des gilets jaunes, une des raisons, c'est parce que l'essence est à 1,50€.
Parce qu'il y avait une taxe supplémentaire.
Voilà, exactement. Donc oui, la solution, c'est baisser les taxes. Mais ça, on va le répéter. Ils ne veulent pas. Moi, je pense que le gouvernement veut gagner du temps. Macron, il y reste moins d'un an. Ils vont tirer le truc et ils vont refiler la patate chaude au successeur ou à la successeuse si c'est une femme. Et ça va être débrouille-toi avec. Mais on est dans une société qui ne veut pas faire confiance aux Français. On explique que on ne peut pas baisser les taxes parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas l'esprit d'entreprise en France et à commencer chez les politiques. Tu baisses les taxes, tu fais confiance à la consommation, tu en profites pour baisser les taxes pour les artisans, les commerçants, tu arrêtes avec cette république soviétique des taxes en fait. Là, ça suffit, mais ils ne le feront pas. Donc, ils vont inventer des aides et on nous bassine qu'il n'y a pas d'argent en France.
Parce que le gouvernement va t'expliquer qu'on n'a pas les moyens de se passer de ces taxes.
Par contre, on a les moyens pour la voiture de Madame Edith.
Et on a les moyens de payer 70 000 aux fonctionnaires à plus de 15 000 euros par mois.
L'État est en banqueroute. Si les taux montent, les intérêts d'emprunt nous asphyxient complètement. Le problème, pour prolonger le propos d'Abel, c'est le cours mondial du pétrole. Or, qu'est-ce qui se passe? Trump s'est mis dans une impasse avec cette guerre en Iran. Il a été poussé par les Israéliens qui avaient un intérêt à s'en prendre au proxy qui les harcelait. Et il a été euphorisé par l'opération extraordinaire au Venezuela et a cru qu'il était invincible. Mais maintenant, il est dans une situation, je ferai référence à mon frère Pierre, ancien chef d'état-major des armées, il s'est mis dans une situation impossible, selon ses termes, et on est complètement coincé. Les Iraniens sont des bêtes blessées, et extrêmement virulents et ne veulent pas négocier. Par conséquent, avec l'amateurisme des Américains qui ont fait l'impasse sur Hormuz, on est impuissants, nous, la France, les Français, la France, on est impuissants. Et dans le même temps, là où on est puissant, on fait pas ce que l'on fait, puisqu'on fait défiler les Ukrainiens sur les Champs-Élysées, alors que l'Ukraine bombarde les raffineries de gasoil russe, faisant monter gravement aussi le cours du pétrole. Au lieu d'imposer la paix en Ukraine à Zelensky, en disant maintenant, on coupe les vivres,
à Poutine.
Vous faites une partition, pas de solution militaire à cette guerre en Ukraine. On va pas faire flamber les cours pour des raisons morales où il n'y a que des morts à la clé.
Bon, en tout cas, Barbara Lefebvre, pour l'instant, c'est le statu quo. C'est-à-dire qu'il faut faire avec. Donc les Françaises débrouillent.
Alors, je rejoins Abel parce que, alors évidemment, comme vous le savez, étant avec un véhicule électrique, je regarde de façon plutôt touristique les abords des routes. Mais alors quand même, comme je veux rester en contact avec mes concitoyens, je regarde quand même le prix à chaque fois à la pompe. Et là, excusez-moi, mais je suis d'accord avec Abel, j'ai jamais vu que ça descendait en dessous de 2 euros. Hein. Donc le répit, si je vois pas où il est.
Oui, 1,95€.
Excuse-moi, en tout cas moi, à chaque fois que je regarde, je vois écrit 2. Donc je me dis, ah tiens, mes pauvres amis concitoyens qui roulent en voiture thermique, eh ben, ils sont toujours dans la panade. Qu'est-ce qu'on pouvait attendre de ce gouvernement? Ah ben, l'électrique, si tu fais de la citadine ou de la petite distance comme moi je fais, c'est-à-dire pour aller de ma ville qui est en banlieue parisienne à Paris, et encore Paris bord de périph, parce que je rentre jamais dans Paris.
Les gens font des trajets domicile-travail.
Voilà, domicile-travail en voiture électrique, oui. Après, on aura un autre problème parce que tu verras qu'après, ils viendront nous taxer l'électricité. Et là, on va prendre très cher sur les voitures électriques. Donc, moi, je vois que l'État a un levier qu'il ne veut toujours pas actionner, qui s'appelle l'allègement des taxes. On l'a répété 350 milliards de fois, donc il y en a ras-le-bol. 60% de taxes, 40% de pétrole. Mm-hmm. Donc on arrête de nous saouler avec
ça,
c'est la guerre à Trump, c'est la guerre à Bibi ou je ne sais quoi.
Non,
c'est d'abord la guerre des taxes de monsieur Macron et de sa clique. Parce que c'est
eux. Les taxes, elles ont été mises en place.
Mais aujourd'hui, qui est aux manettes, c'est pas moi.
Oui, oui.
Bon, donc venir dire c'est la faute à Trump, c'est la faute à Bibi, c'est la faute aux Iraniens.
Bah, c'est le cours du pétrole, quand même.
Non, si tu allèges les taxes, demande à Abel, il est allé à Malte.
On n'a pas les moyens.
Quel est le prix de l'essence à Malte?
On donne à l'Ukraine pour continuer une guerre qui fait monter les coûts.
Non, mais c'est pas l'Ukraine.
Mais c'est pas l'Ukraine, c'est des prêts.
17 milliards. Absolument pas pro-Poutine, Abel. Ne dis pas des choses comme ça. 17 milliards donnés à l'Ukraine, c'est l'argent à l'euro près dont on aurait besoin pour baisser les prix.
Pardon, la dette de la France,
on prolonge une guerre au lieu de faire une partition en Ukraine. Il n'y aura pas de solution. Il n'y a que des morts.
Là où je te rejoins, c'est quand il y a un an, Macron donne 3 milliards à Zelensky et il dit la France peut se le permettre. Voilà,
oui,
ça c'est scandaleux.
Mais
à Malte, l'essence c'est 1,31€ le litre. 1,31€.
Et pourtant, il y a l'Ukraine.
Alors oui.
Et t'as eu l'impression d'être dans un pays du tiers-monde?
Non, parce qu'ils font confiance au peuple pour dynamiser l'économie, la consommation et l'investissement.
C'est pas le même modèle social qui nous coûte très cher
aussi.
Le modèle social, clac.
Valérie est avec nous au 32-16. Bonjour Valérie.
Bonjour les grandes gueules.
Vous nous appelez du Gard.
Oui.
Alors, est-ce que vous avez tiré les conseils? Oui.
Juste une chose, j'adore Barbara, je vous aime tous, mais Barbara, c'est mon coup de cœur.
Merci beaucoup Valérie, vous êtes très gentille.
Valérie, est-ce que vous avez changé vos habitudes par rapport à ces prix du carburant qui deviennent insupportables?
Alors moi, j'ai changé ma voiture il y a 15 jours pour une toute électrique. Le dernier plein que j'ai fait, 105,80€, ça m'a fait vriller.
Et donc, vous avez changé de voiture, vous avez pris une électrique?
Voilà, 100% électrique, je fais le plein pour 2,80€ à la maison. Voilà.
Et vous en êtes contente?
Super.
C'est quoi comme modèle, sans donner la marque?
J'ai pris une Corsa.
Ah oui, donc
Corsa,
c'est
une voiture électrique, ouais.
Une voiture. Mmh.
Et donc ça vous suffit?
Ah ben, parfait. J'ai acheté une occasion qui est encore garantie 5 ans. Et
vous chargez chez vous ou chargez dans les bornes?
Non, je charge chez moi.
Voilà, très bien.
Comme un smartphone, j'arrive, je mets ma prise et voilà.
Et ben voilà. Et donc, ça y est, vous êtes passé à l'électrique et finalement, vous avez réglé le problème. Alors après, à l'achat,
de l'État en fait.
Mais elle a acheté une occasion. T'es pas obligé d'acheter.
Alors les occasions d'électrique, il y en a pas beaucoup.
Et là, il relance le leasing social. Mais vous savez, Valérie, c'est parce qu'elle en a eu marre de son plein. Moi, je me suis mise à l'électrique. À l'époque, vous allez vous dire, c'était vraiment. Mais c'était pourtant pas 14-18. Il y a eu un moment où il y a eu une montée de l'essence. Et un jour, je fais le plein à 1,60. Alors qu'on était à 1,30 ou 1,40 deux mois avant. C'est à 1,60. Je me suis dit stop.
Voilà. Merci Valérie.
Deux, je te raconte pas.
Valérie a pris une électrique et elle est ravie. Benoît est avec nous, il aura le mot de la fin. Benoît, bonjour, du côté de Chaumontel, dans le Val d'Oise.
Oui, bonjour.
Alors, comment vous allez faire avec ce prix de l'essence?
Eh ben moi, je suis en vacances là dans 2 semaines.
Ouais.
Je fais une semaine en vacances dans le sud avec ma voiture.
Ouais.
Et après, je fais ma deuxième semaine tout seul en train. Et ça me revient à la dernière fois que j'ai fait un plein d'essence avec ma voiture, j'en ai eu pour 70 €. Et j'ai pris un billet de train pour exactement le même prix. D'accord. Et j'ai fait juste l'aller. Et je préfère, à la limite, prendre un billet de train que mettre 70 € dans un plein d'essence que je fais assez souvent.
Donc, en fait, vous avez adapté votre façon de faire, là.
Exactement. C'est exactement ça. Et j'ai une application qui me, sur mon téléphone, qui me montre les stations les moins chères sur les autoroutes ou en ville.
Ouais.
Et je ne me sers que de ça.
Et vous avez trouvé des différences entre autoroute et ville? C'est toujours un peu moins cher.
Donc,
en ville,
sur les autoroutes, on est à quasiment à 2 € le litre d'essence. Et en ville, moi, j'ai une station à côté de chez moi. Je suis à, c'est une station totale, justement. Et je suis à 1,99.
Ouais. Parce que c'est plafonné. Merci, Benoît. Ouais. Donc, Benoît, il coupe la poire en deux. Une semaine voiture, une semaine train. On va, dans un instant, s'intéresser aux saisonniers. Ça, c'est la galère chaque année pour les restaurateurs, les hôteliers. Ils ont du mal à recruter des saisonniers. Là, il manque plusieurs dizaines de milliers de postes qui ne sont pas pourvus. Alors pourquoi? Parce que c'est pas bien payé, parce que c'est trop dur, parce que c'est passé de mode d'être saisonnier. Qu'en pensez-vous? Tiens, venez témoigner. Vous recherchez des gens justement là encore en plein cœur de l'été. Le 32-16. À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Laisse-moi des grandes gueules, 10h42 sur RMC, RMC Story, avec autour de la table aujourd'hui Barbara Lefebvre, Abel Boyi, Emmanuel De Villiers. C'est une plaie chaque année. Comment trouver des saisonniers? Il y a environ 65 000 saisonniers qui manquent chaque été. C'est la moyenne en France, dans l'hôtellerie, la restauration, dans les campings, etc., pour les vacances d'été. Alors, comment expliquer cette pénurie? Question de salaire, de conditions de travail, de logement aussi, parce que c'est vrai que il y a une tension aussi sur le marché de l'immobilier sur les zones touristiques, on le sait. Appelez-nous au 32-16. Bah tiens, on va commencer par Franck qui vient d'arriver. Franck est restaurateur. Bonjour Franck. Bienvenue dans les grandes gueules, Franck, qui nous appelle du Var au Muy. Vous avez trouvé, vous?
Oui, non, j'ai pas eu de mal parce que en fait, faut pas les chercher bien loin. Vous savez, parfois c'est des jeunes qui sont là dans le village d'à côté. Parfois, on est même démarché par les parents qui viennent nous voir en disant oui, vous cherchez pas des saisonniers. Bon, après, c'est sûr que ce sont pas forcément des confirmés, ils ont pas forcément l'expérience, mais s'ils sont bien encadrés, y a pas de souci par les confirmés. Il y a aucun problème. Hein. Donc, il ne faut pas aller bien chercher bien loin. Par contre, je voudrais juste revenir sur un point qui a été évoqué ce matin sur vos antennes, c'était par les grandes gueules, que les gamins, ils partent, ou les gamines, elles partent du jour au lendemain. Ce n'est pas parce que le boulot est trop dur, ou ce n'est pas parce qu'ils sont en train de faire... C'est parce que parfois, les clients sont durs. Depuis le Covid...
Les clients sont durs?
Oui, ils sont durs parfois. Alors, quand on est dur avec un confirmé, il a la réponse, il sait prendre sur soi, etc. Il n'y a pas de souci. Mais parfois, les saisonniers, les jeunes, bon, ils font souvent ça aussi pour se payer le permis, pour se payer la première petite voiture ou le scooter. Eh bien, parfois, je ne comprends pas cette attitude parce que...
Mais parce donnez-nous un exemple.
Leur fille ou leur fils qui est en train de servir, quoi.
Donnez-nous un exemple.
Ah, voilà, un exemple, c'est simple. On a un jeune qui a commencé, il a fait quasiment un mois avec nous, et du jour au lendemain, il s'est arrêté, il nous a envoyé, donc il nous a appelé en disant, voilà, je ne le reviendrai plus. Je dis, juste essayer de m'expliquer pourquoi. Est-ce qu'il y a un problème avec le personnel, avec les autres, avec nous, ou quoi? Il dit non. Il dit, les gens, ils sont durs.
Les gens sont durs.
Ils ne supportaient pas, alors.
Mais ça veut dire quoi, dur? Moi, je voudrais comprendre. C'est quoi? Ils parlent mal?
Ils sont exigeants, certainement.
Ma viande, elle est ceci, elle est cela. Prenez. Vous voyez, ces petites réflexions. Vous n'avez pas vu qu'il ne reste plus qu'un pain dans notre panier? Vous pourrez quand même déjà le ramener. Vous voyez, ces petites piques qui font que.
Après, c'est tout est dans la façon dont on dit les choses.
Exact. Et eux, ils sont pas formés pour forcément
encaisser.
encaisser et puis voilà, gérer le truc. Alors qu'elle confirmait, lui, bah, il a la réponse de suite. Hein. Moi, il me dit ça à moi. Bon, je tourne ça dans la façon à la rigolade, etc.
Mais voilà, vous qui avez de l'expérience, est-ce que les clients vous les trouvez plus exigeants et plus durs aujourd'hui qu'à une époque où ça a toujours été pareil et c'est le personnel qui a une moins bonne capacité d'adaptation?
Non, je pense que les gens ont, je pense que dans tous les corps de métier, on le remarque. Depuis le Covid, beaucoup de choses ont changé.
Mmh. Voilà, exactement. Voilà.
Le Covid a tout désorganisé.
Mmh. Et bien sûr, ça a rendu les gens.
Le Covid a tout désorganisé.
Merci de le dire, effectivement.
Oui, mais en quoi le Covid pousse ses clients à être plus exigeants?
Ça a rendu certaines personnes vraiment hargneuses. Mmh. Ça a rendu les gens hypersensibles à tout.
Les saisonniers existaient avant le Covid. Hein.
Oui, mais ça, je pense vraiment, quand on voit sur les jeunes les problèmes de santé mentale qui sont exacerbés depuis le Covid, mais même sur les personnes adultes, combien ça a ravagé de couples, de familles. Non, vraiment, ils se rendent toujours pas compte de l'état psychologique dans lequel ils ont mis les gens. Et aujourd'hui, on sent chez certaines personnes une forme d'impulsivité à s'en prendre à autrui, en particulier dans le plus anonymement possible. D'ailleurs, je trouve, à titre personnel, n'y étant pas, mais néanmoins, je trouve quand même, par exemple, sur les réseaux sociaux, ça s'est quand même beaucoup dégradé aussi après le Covid. Sûr. Les gens se jettent là-dessus avec Franck, une telle haine, et souvent dans l'anonymat le plus complet.
Franck, est-ce qu'il dit que donc ces jeunes ne supportent pas...
C'est facile s'en prendre un petit jeune en plus.
Ne supportent pas, oui, en plus, c'est vrai que c'est pas très bien, mais est-ce qu'aussi les jeunes sont peut-être un peu plus fragiles, encaissent moins aussi les réflexions?
Oui, mais il y a aussi la récurrence. Le Covid a arrêté l'économie et la restauration, donc a cassé la récurrence de recrutement des saisonniers. Moi, je me souviens, dans les années 90, quand je m'occupais du Puy du Fou, on avait 3 candidats pour un poste. C'était la difficulté, c'était de ne pas mécontenter. On faisait des sessions pour essayer de trouver les gens les plus motivés. Maintenant, il y a une carence. C'est vrai que le coût du logement aussi est prohibitif. Mais ça a cassé l'engagement des jeunes qui préfèrent ne rien foutre, profiter de l'été, que l'engagement, parce que l'économie a été cassée.
Nathan était avec nous au 32-16. Bonjour Nathan. Et on remercie Franck pour ce témoignage, Jean-Levin. Nathan, du côté de la Gironde, vous êtes viticulteur, effectivement, aussi dans le monde agricole, on cherche des saisonniers.
Exactement. Ben alors ouais, voilà, pour ma part, moi, donc forcément, bon, c'est pas encore le cas, mais les vendanges vont bientôt arriver, donc vous vous doutez bien que c'est moi, on a envie de faire des vendanges à la main, on a besoin de personnel. Alors du coup, forcément, 2 choix s'offrent à nous. Donc le premier choix, ça va être de trouver des personnes justement pour venir les vendanges directement, embauchées par nous-mêmes, par le patron de l'entreprise, ou alors de faire venir des entreprises. Donc là, c'est des grosses entreprises du côté de chez nous, forcément, dans le viticole, on en a énormément, qui embauchent beaucoup de monde. Donc on va être sur le cliché, hein, comme on m'a dit au standard, sur le cliché un peu des Marocains, des Espagnols qui montent travailler en France pour la saison. Bon, forcément, eux sont très mal payés. Par contre, à côté de ça, les entreprises coûtent très très cher. Donc on a une vraie problématique, surtout que la vigne, autant que la restauration, bien sûr, parce que j'ai pu prendre en cours ce que vous disiez, autant que la restauration est un métier... plutôt compliqué, hein, on va pas se mentir, hein, d'être dehors en pleine chaleur tout le temps, même si on adapte les horaires en commençant plus tôt le matin, mais ça reste loin d'être facile.
Mais Nathan, quand vous dites mal payé, c'est combien?
Bah alors en fait, on peut pas descendre en dessous du SMIC, mais voilà, pour un travail qui, je crois de mémoire, n'est pas reconnu comme travail pénible, on va dire que les gens, comme vous disiez, les jeunes sont de moins en moins motivés depuis le Covid, etc. Plus personne n'a envie de travailler. Quoi. Forcément, on gagne autant à rester à la maison qu'à aller travailler dans la vigne ou aller travailler en restauration. Donc, je peux comprendre les jeunes qui se disent « autant que je reste à la maison, que je fasse la fête et que bien sûr, j'en fais partie de ces générations-là parce que j'ai que 20 ans. Hein, » voilà,
oui, mais bon, en même temps, ils ne sont pas payés, les jeunes.
Le premier facteur de réticence des jeunes, souvent, c'est la question du logement pendant la saison. Vous, comment est-ce que vous répondez à cette problématique du logement pour vos saisonniers?
Voilà, alors par exemple, en fait, il y a beaucoup d'exploitations autour de chez moi, moi et autour de chez moi. Par exemple, on a des mobil-hommes. Voilà, c'est un peu rudimentaire, on va dire, mais bon, c'est toujours mieux que de devoir dormir en tente en plein milieu du soleil, quoi. Enfin, je veux dire, nous, on a des bâtiments qui sont couverts, donc parce que bon, il y a les trucs des panneaux photovoltaïques, etc. Donc, on a pu construire des bâtiments et installer des mobil-hommes en dessous, où c'est des mobil-hommes où les gens peuvent dormir, et puis le soir, ils ne peuvent pas faire leur vie, le soir après la débauche.
Ils sont logés à titre gratuit?
Toujours. Alors ça, moi en tout cas, c'est une des politiques que j'aimerais mettre en place. Ouais. C'est obligatoire pour moi.
Et puis Nathan, il y a un point. Vous avez reconnu que certains métiers d'été sont très mal payés. Et il faut mettre ça en corrélation aussi avec le prix de la vie qui coûte de plus en plus cher. Avec 1000 euros. Il y a 7-8 ans, on faisait beaucoup plus de choses qu'aujourd'hui. On a fait un débat sur l'essence juste avant. Donc, il y a un côté très anxiogène dans la société.
Tu règles le problème du carburant.
Oui, mais ça, c'est dans ce cas-là, bien entendu. Donc, les gens sont, il y a une anxiété qui est prenante dans la société de plus en plus de dépressifs, de plus en plus d'addictions à différentes drogues aussi. Oui. Donc bah, tout
après,
ça, c'est savoir, lié.
C'était de l'argent ou pas pour la drogue.
Bien sûr, bien sûr.
Ah, bah, oui, mais le problème de l'addiction.
C'est sûr que le mec qui est drogué, qui a le vaccin, le contre la grippe.
Le problème de l'addiction et de la dépression.
Et qui a 1000 km avec le coût du transport.
Oui, c'est compliqué, mais.
Il nous appelle au 3216.
Il nous fait une petite synthèse de l'émission.
Oui, merci Nathan, merci et bon courage. Bon été à vous. Et nous sommes avec un restaurateur, Joël. Lui, il a trouvé son personnel. Il va nous expliquer comment, du côté de Châteauroux, dans l'Indre. Bonjour, Joël.
Oui, bonjour, les GG, oui. Bonjour. Oui, je vous écoute depuis, on est au bord d'un lac, une belle guinguette. On embauche une quarantaine de personnes tous les ans. Ouais. La moitié de nos saisonniers reviennent chaque année. Donc, ça facilite un peu le... Mais on a toujours une abondance de candidatures. Alors, on fait le tri, mais on n'a surtout pas de problème de candidats, ça, c'est clair.
Et vous payez bien?
Ben je pense qu'on les paye pas trop mal puisqu'ils veulent tous revenir.
Bon, ben c'est bien.
Et au niveau du logement, vous faites comment?
Ben on a plutôt une demande locale. Donc, c'est les familles qui fréquentent l'établissement, qui connaissent un peu l'endroit.
Ah, voilà.
D'accord.
Oui. Il y a une bonne équipe de jeunes qui se stimulent eux-mêmes. Et puis qui reviennent pour la moitié d'entre eux chaque année. Donc à chaque fois, on a
ça tord le cou à ceux qui disent que les jeunes aujourd'hui ne veulent plus travailler,
oui.
Etc.
Non, oui, mais on voit la pointe de dynamisme dans la voix de Joël, que c'est un bon manager.
Je vais faire un petit peu d'exemple. Je suis pas tout jeune, j'ai 67 ans bientôt. Donc, vous voyez. Alors, mon fils a repris l'affaire, mais quand j'ai entendu le sujet, j'ai dit, il faut absolument intervenir. Mais c'est pas un problème de jeunes. Les jeunes, il faut leur fixer un cap, c'est tout. Et ils savent ceux qui s'engagent avec nous, qui doivent bosser. Et la contrepartie, c'est de pas trop les mal payer, pas trop mal les payer, les considérer.
Et les valoriser. Ça,
c'est que la recette est la bonne.
Vous payez les heures sup et aussi adapter le temps de travail parce que ce qui est difficile aussi parfois dans la restauration. Ce qui est difficile aussi.
Ils arrivent le matin, ils pointent leur heure d'arrivée et leur heure de départ.
Parce que ce qui est quand même difficile dans la restauration, il faut le dire, surtout pour ceux qui démarrent, c'est les horaires décalés et la coupure. Quand vous avez 5-6 heures de coupure et que vous ne pouvez pas quitter le lieu où vous êtes, voilà.
C'est vrai, ce n'est pas un métier facile, mais on leur met le pied à l'étrier. Je pense que c'est une belle formation.
La restauration, c'est une bonne formation. Oui, c'est mais aussi le contact avec la clientèle.
De toute façon, tous les jobs d'été, c'est une bonne formation.
Puis les jeunes sont contents. Après, bon, j'en ai pas là à portée de la main. Je suis pas sûr. Mais je peux vous garantir que nous, on n'a pas de problème de candidats. Et après, effectivement, on leur explique le truc. Ils font l'affaire, ils font pas l'affaire. Et on leur laisse un peu de temps, évidemment. Mais
est-ce qu'il y en a certains qui partent du jour au lendemain? Parce qu'il paraît que c'est quand même ça aussi maintenant. C'est que du jour au lendemain. Pour vous, ça s'est jamais arrivé. Bon, ben, c'est bien.
C'est jamais arrivé. Alors après, il y en a qui peuvent avoir un petit coup de fatigue et puis qui nous préviennent à l'avance. Ils partent pas comme ça du jour au lendemain. Et puis ceux qui n'ont pas le profil ni la niaque pour faire ce boulot-là,
vous sentez.
On joue cache avec eux, on le voit et puis.
Vous voyez ça assez vite. C'est votre expérience.
On sent que vous êtes au
contact. Jamais de rien du tout.
On sent que vous êtes au contact de vos salariés. Ça change tout.
Oui,
ça.
Oui,
parce que je fais ce métier depuis assez longtemps. Et puis je sers, alors à défaut d'exemple, je on est un peu une locomotive, mon fils, et puis les piliers un peu de la guinguette, c'est des gens qui ont compris. En plus, ils sont encore une fois, ils sont gagnants à l'arrivée. Et puis ça stimule l'activité et la clientèle le ressent. C'est pour ça qu'on n'a pas une baisse significative.
Comment s'appelle votre guinguette, Joël?
La guinguette de Belle-Île à Châteauroux, c'est la plus belle de France.
Bon, en tout cas, ça donne envie d'aller déjeuner chez vous, la guinguette de Belle-Île à Châteauroux.
Barbara, je vous adore.
Merci beaucoup, Joël. Voilà. Eh ben, je viendrai à Châteauroux.
À Châteauroux, dans l'Inde, la guinguette.
Vous connaissez Louis Gerbier?
Comment?
Est-ce que vous connaissez Louis Gerbier? Parce que Louis Gerbier, qui travaille avec nous, est né à Châteauroux. Alors, il nous parle toujours de Châteauroux. Ben, je crois qu'il avait 2 ans quand il est parti. Donc, en fait, en même temps.
Si vous passez dans le coin, les Gégés, on sera ravis de vous recevoir.
Ah, ben, ça avec sera grand avec plaisir. Merci, on n'a jamais été à Châteauroux.
Ça vaut le détour.
Ah, ben oui, mais on n'a jamais fait d'émission à Châteauroux. Ben, pourquoi pas,
Joël. Voilà, vous allez. Et puis, il y a des élections terribles. Ça pourrait être intéressant. Moi, j'aimerais bien débattre.
Avec plaisir. Bah, tiens, si vous nous accueillez dans votre guinguette, on peut faire une belle émission.
Ah,
ça serait bien. Vraiment, l'endroit mérite le. On a un bon maire en plus, là je vais envoyer une petite on a une ville qui est très bien vraiment.
Bon bah super, bah il est content, voilà. Alors, ça fait plaisir, un restaurateur heureux.
Ouais,
voilà.
Content, et puis les jeunes, faut arrêter les jeunes, faut les stimuler, faut les motiver, oui. Faut les encourager. Puis des fois faut les secouer aussi un peu.
Et parfois, voilà. Vous les secouez. Mais Joël, il a du bien à l'entendre. Il a trouvé la recette.
C'est un vrai manager. Voilà.
C'est un vrai chef d'entreprise. Mmh, et voilà pourquoi son entreprise marche et que son fils reprend l'entreprise.
Et
voilà.
En bonne santé. Évidemment.
Bien sûr, on les respecte. Bien entendu.
Oui, bien sûr qu'on les respecte.
Mais mon fils me le reproche. Je pense que des fois, il faut respecter aussi.
Parfois, c'est nécessaire. Merci, Joël. Merci d'avoir appelé au 3216.
Merci.
Merci de votre fidélité. À très bientôt.
Oui, merci Joël.
Je pense que tu peux aller à la guinguette.
Ouais, parce
que
là, tu feras un prix. Tu manges
on a, même on avait une consultation voilà. ou pas
sur...
Non, non, c'est... je parlais de la consultation. Est-ce que sur le compte X des grandes gueules. Non, il n'y en avait pas. Bon, ben voilà, on passe à autre chose. Dans un instant, on va parler du pesticide. De deux pesticides qui vont être introduits en France. Ça a été voté par les députés. Est-ce que c'est une bonne idée? A tout de suite.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.